Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Lors de sa rencontre et d'évaluation du taux d'exécution de la première phase du PEDEL 5 ans sur le territoire le 25 mars dernier avec les responsables des agences chargées de la gestion de ce programme, le ministre des Finances Doudou Famba leur avait exigé la transmission dans les meilleurs délais d'un chronogramme précis de la livraison des ouvrages restants. Pour le ministre des Finances, c'est la condition préalable pour le démarrage de la deuxième phase du PEDEL 5 ans sur le territoire qui consiste à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Cette deuxième phase aura l'avantage de permettre aux agriculteurs de pouvoir évacuer leurs produits agricoles vers les grands centres urbains. Mais au regard du retard pris dans l'exécution de la première phase dont le taux de réalisation est estimé à 40% dans l'ensemble du pays, d'aucuns estiment que pour la deuxième phase, il faudra davantage l'implication des députés nationaux et provinciaux et aussi la population des territoires concernés. À noter que dans presque toutes les provinces du pays, les routes et dessertes agricoles sont difficilement praticables et cette situation a un impact négatif sur la production agricole. Beaucoup de paysans s'élancent dans l'agriculture domestique plutôt que de courir le risque de voir leurs produits agricoles pourrir par manque des bonnes routes et des dessertes agricoles. Que pensez-vous du rôle que doivent jouer les députés pour une mise en œuvre efficace et durable de la deuxième phase du PEDEL 145 territoires? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou également dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 0-85-44-65-536. Justin Siala est à la mise en nom de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation et la coordination. Nelson Nyombe est là pour l'équipe multimédia au micro. Vous l'avez compris, c'est Marcel Ngomombala tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Et voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. On va parler PEDEL 145 territoires. On va faire d'abord une certaine évaluation avec notre invité, l'honorable Donatien Bitini Talaba. Honorable, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel.
Vous êtes député national élu de Boulungou dans la province du Kulu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous suivez certainement de près ce programme de développement local du 145 territoires qui est un des programmes phares du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour rendre viable le territoire de la RDC. Il avait d'abord cette première phase qui a consisté à la construction des écoles, des bâtiments administratifs, des centres de santé, et dont les taux d'exécution a été estimé à 40% dans l'ensemble du pays. Et lors d'une rencontre entre le ministre des Finances, Doudou Famba, et les responsables des agents chargés de la gestion de ce programme, le ministre des Finances leur avait exigé la transmission dans les meilleurs délais d'un chronogramme précis de la livraison des ouvrages restants. Pour le ministre des Finances, c'est la condition préalable pour le démarrage de la deuxième phase qui consiste à la réhabilitation des routes et des sites agricoles. Alors, avant d'en arriver à cette deuxième phase, est-ce que, si vous pouvez d'abord faire, en tout cas d'après vous, comment avez-vous perçu la réalisation de la première phase? Si peut-être on peut parler, par exemple, de votre fief électoral.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Et je vais profiter d'abord pour saluer les auditeurs de la radio Capi et nos électeurs de notre base, de ma base au territoire de Boulungou. Et je vais aussi saluer les militantes et les militants du Parti de Mumbiste Unifié, qui sont toujours là pour l'intérêt du Congo.
Parce qu'il faut le dire, vous êtes membre de ce parti.
Oui, je suis cadre du PALU et maintenant je suis membre du bureau politique. Vous savez que les PALU prônent les socialismes, les nationalismes. Nous sommes des Congolais, nous défendons l'intérêt du Congo. C'est ainsi que vous allez voir, nous remuons bec et ongles pour que ces pays puissent demeurer aussi longtemps possible et que nous puissions développer cette terre de nos ancêtres. Pour parler de projet des 145 territoires, vous le savez que la première phase était celle qui consistait à doter nos territoires des infrastructures, des bâtiments qui devrait servir au ministère de la Santé, des bâtiments qui devraient servir à l'administration des différents territoires et des bâtiments qui devraient servir aux écoles. Donc, il y a quelques travaux qui se sont réalisés sur toute l'étendue du pays. Il y a quelques ouvrages que le vice-premier ministre et le ministre du Plan, via ses services, avaient déjà remis aux bénéficiaires dans les différents territoires. Mais nous avons suivi les apports que ce ministère lui-même avait mis à notre disposition l'année passée, et nous avons suivi les différents rapports des enquêtes opérées sur le terrain. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui n'ont pas été remis aux bénéficiaires. Donc c'est là où nous insistons que, comme ce sont des contrats signés avec l'État congolais et que les travaux vont continuer à se faire, et nous voulons que la remise de ces ouvrages soit effective, et même si ça va prendre quelques mois, que ça puisse se concrétiser. Donc, la première phase, nous insistons là-dessus, que le vice-premier ministre et le ministre du Plan doivent continuer à travailler avec les entreprises qui avaient gagné les marchés, qui ont commencé aussi à exécuter les travaux sur le terrain, que ces différentes remises puissent continuer. Mais nous ne voulons pas que ces retards que nous avons connus par rapport à la première phase de l'exécution de ces projets puissent continuer, qu'on n'attende pas l'exécution de la deuxième phase, parce que ça sera contradictoire. La législature actuelle, nous avons 5 ans, et dans les 5 ans, nous avons déjà consommé une année et quelques mois. Alors, on ne peut plus continuer à attendre. On doit continuer à travailler avec la deuxième phase, surtout, et parce que ce n'est pas le même ministère qui va piloter. Vous savez que la première phase a été pilotée par le vice-premier ministre et le ministre du Plan, mais la deuxième phase, à ce qui consiste la construction et la réhabilitation des routes et des sites agricoles, sera piloté par le ministre du Développement Rural.
Mais déjà, honorable, pensez que de la première phase de la direction, il y a des gens qui estiment que vous, les honorables, vous n'êtes pas vraiment impliqués dans la première phase pour que tout se passe dans les meilleures conditions.
Non, on a récupéré la situation, nous les élus du pays, surtout nationaux, nous avons récupéré la situation après l'intervention du vice-premier ministre et ministre du Plan. Parce que nous, on avait des problèmes par rapport aux données. Vous le savez que la matière, pour faire les contrôles, vous devez avoir les éléments. Nous, on n'avait pas les éléments sur le terrain, mais le ministre lui-même, il est venu suite à nos différentes appels, il est venu et il nous a doté les éléments qu'on avait besoin. Il a fait un rapport, et c'est sur base de ces rapports-là que nous avons critiqué et que nous avons pu nous rendre sur le terrain pour comparer les rapports mis à notre disposition et les réalisations effectives sur le terrain. C'est là où vous allez constater qu'après enquête, les résultats sont tombés, qu'il y a 40% des taux d'exécution
sur l'ensemble du pays de la première phase.
Oui, sur l'ensemble du pays de la première phase de ces projets, d'exécution de ces projets. Parce que il y a des territoires qui sont enclavés aujourd'hui, qu'on se les dise. Il y a des territoires où vous ne pouvez pas accéder avec les matériels de construction. C'est là où on avait critiqué cette première phase. Nous avons dit il devrait commencer par la réhabilitation des routes, que de commencer par la construction des ouvrages, du bâtiment. Mais donc voilà, ils avaient déjà commencé, on ne peut plus revenir sur ça, mais nous voulons qu'ils continuent à réaliser la première phase, mais en continuant aussi à commencer la deuxième phase du projet. Je vous avais parlé ici, lors de mes différentes interventions, Monsieur Marcel, que chez nous, dans mon territoire, les territoires de Bulungu, dans la province du Kwilu, ça, c'est un territoire à caractère agricole. Nous, là-bas, nos villages vivent que des productions agricoles. Alors, ces territoires, aujourd'hui, je vous parle, c'est enclavé.
Vous revenez de vacances parlementaires.
Je reviens de vacances parlementaires. Même pour passer sur des motos, c'est pratiquement difficile. Moi, regardez avec tout ce que nous vivons ici. Mais quand je rentre là-bas, je commence à prendre des motos. C'est avec des motos que nous avons battu campagne pour les élections de 2023. Et pour accéder dans les coins et les recoins de notre territoire, il faut toujours prendre des motos. C'est inconcevable aujourd'hui, en 2025, qu'on n'arrive pas d'abord à garder les routes que les colons nous ont laissées. Parce que je vous dis, dans mon village, dans les forêts de mon village, les différentes forêts de mon village, il y avait des voies accessibles. Pourquoi à l'époque il y avait une entreprise?
Mais même en terre battue.
Oui, les véhicules entraient même dans nos forêts. Moi, nous avons un héritage, nous avons une grande forêt dans notre village. Et c'est, je pense, à 20 km de notre village. Mais il y avait des véhicules qui accédaient déjà. Vers les années 70, 80, 90. Mais après les pillages, tout s'est arrêté. Pourquoi l'entreprise qui entretenait des routes, les plantations, les verres au Congo, a fermé ses portes et la forêt a poussé partout. On ne peut plus accéder dans tous ces espaces-là. Mais aujourd'hui, ce qui est d'abord, ce qu'on déplore, c'est quoi? Nous n'avons pas pu garder d'abord ce que nous avons hérité. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à construire. C'est là où on se dit, on doit d'abord réhabiliter les anciennes routes, des dessertes agricoles, et puis, s'il le faut, mettre les moyens pour construire de nouvelles routes.
Alors, maintenant que ça sera ça, exactement, la deuxième phase de PDL 145 territoires, comment vous, les députés nationaux, aussi bien provinciaux, comptez-vous à vous impliquer de manière à ce que cette fois-ci, parce qu'on le sait, beaucoup de paysans sont découragés simplement, faute de routes, de dessertes agricoles praticables, beaucoup font plus que de l'agriculture domestique pour se nourrir, parce qu'on veut pas voir leurs produits agricoles pourrir, parce que ça va les évacuer vers le grand centre urbain, et cette réhabilitation, construction de routes, de dessertes agricoles sera vraiment une solution par rapport à ce problème. Comment comptez-vous, en tant que député, vous impliquer de manière à ce que cette fois-ci, les travaux se passent, c'est pas dans les délais impartis, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de tout ce qu'on a à déplorer pour la première phase.
Oui, c'est ce que nous avons, vous avez dit, nous avons déploré lors de l'exécution de la première phase, nous avons fait des recommandations au vice-premier ministre et ministre du plan, que rien ne peut se faire sans l'accompagnement des élus locaux. Rien ne peut se faire. Parce que nous sommes en contact permanent avec nos bases. Je venais de dire qu'au mois de février, j'ai fait tout un mois dans mon territoire. Et nous savons quelles sont les routes de cette agricole qu'on doit réhabiliter, quels sont les axes importants pour notre économie qu'on doit d'abord réhabiliter. Nous avons toutes les données. C'est là où nous avons prodigué au conseil, les conseils au ministre du plan, et nous avons fait aussi des recommandations au ministre du développement rural, M. Moïnou Nzangi, que vous devez travailler en parfaite collaboration avec les élus, parce que nous avons des contacts, nous avons les données de nos territoires. Prenez par exemple Moïnou Nzangi, c'est un élu du Nord Kivu, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il a la maîtrise du Congo central? Non. Donc, lui, il est au pouvoir exécutif, mais nous sommes issus du pouvoir législatif. Donc, nous avons les données sur le terrain, nous demandons à ce que nous puissions travailler avec eux, et nous, là, d'ailleurs, nous sommes en train de solliciter les données qu'ils mettent à notre disposition, la documentation.
Donc, vous estimez qu'avant de lancer cette deuxième phase, il faut qu'il y ait des rencontres avec
nous devons travailler ensemble, oui. Et nous devons faire un accompagnement. Moi, par exemple, le député Donatien Bitini Talaba, que je suis, j'avais expliqué l'autre fois ici que j'ai initié des cantonnages manuels dans des axes importants dans mon territoire pour essayer un peu de désencaver les villages parce qu'il était difficile de battre les campagnes. Et ces travaux-là se sont arrêtés au mois de décembre de l'année passée. Pourquoi? Parce que nous étions informés que aussitôt qu'on arrive au début de l'année 2025, les travaux de la deuxième phase allaient commencer. Mais nous voilà maintenant, nous sommes au mois d'avril, rien n'est encore fait et on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce que le peu de travaux qu'on avait réalisés, il pleut abondamment chez nous et les eaux de pluie ont abîmé encore les routes, donc on est revenu à zéro. Donc c'est là où nous sollicitons que le ministre du développement rural puisse travailler en parfaite collaboration avec les élus, parce que nous avons la maîtrise de la situation. Et c'est la remarque aussi qu'on avait fait au VPM du plan, si il nous avait consulté, s'il avait voulu qu'on puisse faire les travaux ensemble avec eux, on n'allait pas commencer la première phase par la construction des bâtiments. C'est parce que les problèmes étaient seulement comment amener les matériels de construction jusqu'aux endroits où on va construire.
Voilà. On revient à vous, honorable Donatien Bitini. Là-bas, on va ouvrir le standard pour recueillir déjà les avis des auditeurs par rapport à ces sujets. On parle de la deuxième phase du programme développement local 145 territoires où bon nombre de Congolais estiment que les il faut absolument impliquer les députés locaux, plutôt les députés nationaux, provinciaux dans cette deuxième phase. Pourquoi? Pour aussi la population, pour que les choses marchent plutôt mieux par rapport à tout ce qu'on a déploré lors de la première phase. Si vous voulez intervenir, je vous rappelle le numéro d'appel, c'est les 085 44 65 536.
Radio Okapi.
Spécial Okapi Service sur l'intelligence artificielle et le développement de compétences en informatique. Mercredi 16 avril 2025 à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle, de 10h à 12h. Un rendez-vous à ne pas rater sur les plateformes digitales de
Radio Okapi.
Étudiants, entrepreneurs, enseignants, chercheurs et amoureux de nouvelles technologies, venez découvrir comment l'intelligence artificielle peut révolutionner plusieurs secteurs et changer nos vies. Rendez-vous avec Jody Daniel Kachama et l'équipe d'Okapi Service le mercredi 16 avril de 10h à 12h à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va déjà ouvrir le standard pour recueillir les premières réactions. Il y a Sylvain Kalunga qui nous appelle depuis le Kasaï central, Franck Kie, Avian en Autriche, John Omandi à Kindu, et puis José Nimbo ici à Kinshasa. Sylvain Kalunga, vous avez la parole depuis le Kasaï central.
Merci beaucoup. Bonjour messieurs, bonjour à la grande famille de la Radio Okapi. Bonjour particulièrement à l'honorable député. C'est Sylvain Kalunga, Kaléo, à partir de la province du Kasaï central, je suis en Anza. D'abord, je salue avec une joie immense le ministre des Finances de Doum Famba pour évoluer les taux d'exécution de la première phase du PDL 145 territoires avec les responsables des agents chargés de la gestion de ces programmes afin d'attaquer la deuxième phase. À même pour ce point, je mets un accent. C'est un ministre qui m'a beaucoup impressionné, ce qui montre qu'il a le cri envers le peuple congolais. Et ce que je voudrais dire par rapport aux deux questions posées, la première qui est relative au rôle que doivent jouer nos députés pour une mise en œuvre efficace et durable de la deuxième phase du PDL 145 territoires. En mon humble avis, nos députés doivent avoir le temps de circuler dans leur base. Aujourd'hui, nous remarquons que pendant les congés parlementaires, nos élus ne descendent pas sur le terrain pour les contrôles parlementaires. Mais avant de donner les congés parlementaires, on donne l'indemnité de sortie à chaque député, c'est pour visiter sa base. Même vous, les députés nationaux, même les députés provinciaux. C'est tout un problème pour voir un député, qui présente une volonté de faire même les cantonnages manuels ici. Mais le déploiement commence par là. Alors nous disons que nos 145 territoires puissent avancer. Comment nos 145 territoires peuvent avancer? Ok, nous d'abord, nos élus ne s'implique pas avec pour qu'il y ait un peu une solution pénative. Or, le rôle d'un député par rapport à la Constitution congolaise, à l'article 109 de la Constitution, il stipule qu'un député, un député national et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire et d'en sortir. Mais aujourd'hui, nous voyons que pendant les congés parlementaires, nos élites ne viennent pas nous rendre visite. Comment nos territoires peuvent avancer? C'est un premier, la première intervention. Par rapport à la deuxième intervention, quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour que les développements pour la deuxième fois évoluent par rapport au développement du 145 territoires? D'après moi, il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. Si on évolue un peu ces facteurs-là, je pense qu'il y aura une solution. Et le premier facteur, c'est par rapport à l'éducation et formation. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour développer les compétences des habitants et répondre aux besoins du marché du travail. Aujourd'hui, à des fois, je ne sais pas, il y avait une formation qu'on avait organisée pour chaque territoire afin de mobiliser la population. Parce que la première des choses, vous ne pouvez pas mettre un projet sans former la population. Vous devez former d'abord la population. C'est un facteur de l'éducation et la formation. Vous éduquez, vous formez la population. Deuxième des cas, les politiques et logements. Développer des politiques pour fournir un logement abordable et de qualité aux habitants. Bien sûr, je félicite aux 40% qu'on avait commencé par ce projet à la première fois. Je pense que dans 40% qu'on avait un peu d'arrivée, c'est un coup de chapeau quand même, et pour commencer à construire les logements pour louer d'abord, avoir de maisons. C'est ça un peu un développement de nos 145 territoires. Et aussi, un élément, la technologie et l'innovation. Utiliser les technologies modernes pour améliorer les services publics. Les transports. Je souligne le mot transport. Pourquoi? Beaucoup de paysans se lancent dans l'agriculture domestique plutôt que de courir les risques de voir leurs produits agricoles pourrir par manque de transport. Aujourd'hui, un paysan peut cultiver. Mais ça sera difficile maintenant de transporter maintenant ce produit agricole-là vers maintenant la population.
D'où voilà, Sylvain, on a compris, vous avez insisté que les députés nationaux et provinciaux puissent s'impliquer. Vous avez également insisté sur le fait qu'il faut informer, sensibiliser la population par rapport au projet, mais aussi, vous avez estimé que c'est bon de réhabiliter les routes de dessert agricoles ou de construire d'autres routes, mais également, il faut songer au transport de tous leurs composants agricoles qui seront le travail de paysans ou des agriculteurs. Merci, Sylvain Kalunga, depuis Cassé Central. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Vous avez la parole, Franck.
Oui, bonjour à vous tous. Mes salutations à l'honorable Donatien de Boulou. Je veux commencer par avouer que je partage son avis, ses analyses, parce que je reconnais les difficultés qu'on éprouve quand on est en train de réaliser certaines œuvres sociales dans nos milieux ruraux. Personnellement, j'étais impliqué, ou je ne sais pas, je suis encore impliqué dans les projets de réaliser quelques œuvres sociales dans nos milieux ruraux. Parfois, j'éprouve autant de difficultés seulement pour l'acheminement des matériaux. Parfois, je devais acheminer de Kinshasa pour les territoires de Boulogne ou dans le secteur de Mikoui. Et ça me coûtait énormément d'argent. Et parfois, cet argent, si on avait des possibilités de tout organiser sur place, ça devait encore être plus facile. Donc, par là, je reconnais l'impact de la route quand on est engagé dans de tels projets. Oui, par rapport à la conception même de ce vaste projet, le P245 territoire, l'intuition en soi est très géniale, elle est très bonne, mais peut-être qu'on avait faussé au niveau des études de faisabilité. Juste ici, personnellement, si je suis les analyses de l'honorable député, je me rends compte que c'est comme si on est encore de continuer à tout centrer dans les bureaux de Kinshasa sans impliquer les premiers bénéficiaires, que sont les habitants dans ces villages-là. Et dans la plupart des cas, ça c'est mon expérience parce que je suis dans ce qui se fait là, je sais un peu, quand vous allez réaliser une œuvre sociale sans que les bénéficiaires comprennent de quoi il est question, ils vont peut-être seulement vous dire Hello Konabinoana, Kimanabenoina, et ainsi de suite. On peut les traduire dans toutes nos langues vernaculaires. Et si je me mets maintenant à comprendre la proportion de ce qui est déjà matérialisé, 40% sur 100, c'est déficitaire. Et par là, je peux comprendre que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, émette un peu de doute pour s'engager déjà à financer la deuxième tranche si déjà les œuvres de la première partie ne sont pas encore convenablement remises aux bénéficiaires. Mais là où je suis un peu dubitatif, c'est quand l'honorable député dit qu'on doit partout associer les honorables députés dans ce qui doit se faire. C'est bien vrai, peut-être que lui, il a cette conscience-là de rester proche de sa population, mais nous savons aussi tous qu'il y a des députés provinciaux comme nationaux qui ne se savent pas redevables vis-à-vis de la population. Il y en a qui n'ont jamais, qui ne se rendent jamais dans les lieux-là lors des vacances parlementaires. Et moi, je me permets de poser une question ouverte à l'honorable qui est avec vous au studio. Un honorable qui ne sera jamais sur place là lors des vacances parlementaires, quel impact aurait sa présence dans la matérialisation de tels projets? Parce que, honorable, pour de tels projets, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait quand même une permanence pour coordonner, pour surveiller, pour tout suivre. Dès que vous n'êtes pas là, vous vous faites représenter parfois par des gens qui vous feront voir que ça marche alors que ça ne marche pas. C'est tous les problèmes qu'on a, même au niveau de ce qui s'était déjà fait pour la première fois. Au niveau de Kinshasa, on leur faisait croire que tout allait, alors que lors de vos descentes pour aller contrôler, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. C'est comme ça que je vous dis, même parmi vous les honorables députés, il y en a qui ne répondent pas non plus à tous les critères de loyauté et de confiance vis-à-vis de la population. Un honorable qui ne se sait pas redevable vis-à-vis de la population, qui sait qu'il se retrouve au Parlement pour avoir soudoyé telle instance, telle autre instance, quelle serait vraiment sa réelle implication par rapport à ce qui s'est fait là? Voilà, je crois m'arrêter là et laisser aussi l'espace aux autres.
Voilà, merci beaucoup Franck d'avoir réagi depuis Vienne en Autriche. On revient au pays, on va aller directement à Kindu pour écouter John Omandé. John Omandé, vous avez la parole.
Merci beaucoup M. Marcel. Bonjour à vous tous au studio, bonjour à l'honorable.
Allez-y John, vous avez la parole, allez-y, on vous écoute.
Voilà, merci pour la thématique d'aujourd'hui. Moi, je crois qu'on devrait d'abord comprendre quel a été l'objectif de ce projet de 145 territoires. D'après mes recherches, Sœur Marcel, il y avait plusieurs objectifs, parmi lesquels moi je ne peux que citer un. C'était pour lutter contre aussi l'exode rural. C'est ce que je suis intervenu même dans les groupes hier. Mais on remarque que quand on fait les projets, on n'associe pas la population bénéficiaire. Et aussi, M. Marcel, pour aller vite, pour ne pas répéter,
oui.
L'objectif aussi du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de l'exécutif. Mais si on était dans un pays sérieux, aujourd'hui, notre Parlement devrait déjà démissionner. Quand vous me parlez de 40% d'exécution pour un projet, mais Marcel, nous sommes dans quel pays? Où est parti cet argent? Aujourd'hui, ce mot maniement, c'était, comme je l'ai écrit dans le groupe, une pure distraction simple. Pourquoi d'abord? Parce qu'au Maliema, il n'y a pas d'abord de route de dessertes agricoles bien aménagées. L'impraticabilité de route au Maliema est à 120%. Et vous venez, vous me dites, des projets 145 territoires pour transporter les matières, les matériaux de construction, de Kindu jusque par exemple à Kibombo, là où il n'y a pas de route. Monsieur Marcel, moi j'aurais voulu que cette deuxième phase qu'ils veulent entamer puisse être la première, ou devrait être la première. Pourquoi quand on construit les routes, quand on aménage des routes, ça devrait permettre d'abord l'évacuation des produits des recettes agricoles, et aussi on devrait permettre aussi l'acheminement des matériels de transport.
John Omandé, John, 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 John Omandé, beaucoup l'ont dit, hein, en tout cas beaucoup beaucoup de Congolais, en tout cas pensent de la même manière que vous. On aurait pu commencer avec cette deuxième phase, c'est-à-dire la deuxième phase pourrait être la première, commencer par la réhabilitation, la construction des routes, des dessertes agricoles, mais des routes seulement pour permettre l'acheminement même de matériel. Ça n'a pas été le cas, mais puisqu'il faut évoluer comme ça n'a pas été le cas, la deuxième phase sera bientôt lancée pour la réhabilitation ou la construction des routes, des dessertes agricoles. Que pensez-vous du rôle que doivent jouer les députés pour que les choses aillent de l'avant?
Merci beaucoup. Alors, les députés nationaux devraient donc inviter le ministre de la Justice, inviter le ministre du Budget, inviter le ministre des Finances. Combien de fonds ont été décaissés du trésor public? Quelle a été l'exécution? Après l'évaluation du ministère des Finances, on devrait appeler les concernés, parce qu'il y a certes des détournements des deniers publics dans cette affaire. On devrait arrêter plutôt tout le monde qui sait mêlé dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre. Il n'y a aucun hôpital. Il n'y a aucun bâtiment administratif remis à l'État. Tout est paralysé.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John Omandé, d'avoir appelé depuis qu'il nous faudra qu'on progresse avec nos auditeurs. On a Josué Niembo qui nous appelle depuis Kinshasa. Josué, vous avez la parole.
Bonjour à tous. J'aimerais d'abord dire qu'un programme, c'est un ensemble de projets. Et chaque projet a un terme. Ça commence quand et ça se termine quand. Donc, nous devons d'abord réfléchir dans ce sens. Et un projet de développement communautaire ne peut pas se faire sans l'implication d'abord des bénéficiaires qui est la population locale. Deuxièmement, il faut une permanence des contrôles et des suivis, un accompagnement parfait qui doit être fait avec les autorités locales. Quand je parle de l'autorité locale, on parle du maître ou l'administrateur du territoire, le chef de groupement, le chef de cité et les chefs de localité. Donc, on doit travailler avec tous ces gens-là pour les assurer la permanence et l'entretien des ouvrages réalisés. Bon, les députés ne viendront que pour des contrôles. Ils peuvent venir relancer en termes de contrôle. Donc, avant de parler des députés, parler directement des autorités locales, ils doivent être impliqués et faire partie du comité qui travaille dans les centres de réalisation des projets. Deuxième aspect, nous allons prendre quelques groupes utilisés. Je crois qu'avec les routes d'usage agricole, nous devons plus utiliser la technique IMO. La technique IMO va d'abord privilégier la main-d'œuvre locale. Ça implique plus la population pour que la population puisse s'approprier du projet. Deuxièmement, les matériaux locaux. Et on devrait commencer par les routes en terre. Et les routes en terre demandent un cantonnement manuel. Il doit être permanent pour que les routes puissent faire longtemps. Et après, on pourra voir si on peut utiliser d'autres techniques telles que l'asphaltage. Alors, ça va booster la production agricole, parce que quand on produit, par exemple, les cacao, café et maïs, ce sont des tonnes et des tonnes, ça demande un acheminement vers les centres de consommation. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits qui fournissent. Et aujourd'hui, 80% des plantations de café au niveau de l'Équateur sont envahies par la forêt parce qu'on ne peut plus entretenir faute de moyens d'évacuation des produits. Donc, ces projets devaient passer avant les projets qui ont commencé. Parce que là, les tiens, on doit y mettre vraiment beaucoup d'importance pour qu'on arrive quand même
Merci Josué Niembo. On a compris, on doit y mettre beaucoup d'importance. Vous avez même proposé, hein, certaines, vous avez proposé qu'il faut, par exemple, recourir à ce que vous appelez la technique IMO. Il faut chercher à utiliser la main d'œuvre locale, faire de routes en terre battue, et également voir dans quelle mesure avoir travailler avec des matériaux locaux. Voilà. Merci à vous Josué Niembo d'avoir appelé depuis qu'une chanson orale de Donatien Bitin Talaba. Vous avez suivi les réactions des uns des autres. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Et merci beaucoup. Je vais commencer d'abord à saluer les auditeurs qui sont en train de suivre. notamment à ceux qui se sont intervenus, à M. Sylvain Kalunga, à M. Franck de Vienne, à M. John Omandé et à M. Josué Niembo, qui ont posé des questions, leurs préoccupations. Nous déjà, en tant qu'élus, nous avons aussi exprimé les mêmes préoccupations auprès du vice-premier ministre, ministre du Plan, qui avait exécuté la première phase de ces grands projets. Il y a M. John Omandé qui a parlé des différents objets de ces projets. Mais moi, je vais dire que c'est seulement l'objet principal. C'était quoi? C'était même dans l'énoncé du projet, le projet de développement à la base. Donc, le gouvernement, la volonté du chef de l'État, avait estimé qu'il était important qu'on puisse amener le développement dans nos territoires. C'est pour cela qu'ils ont conçu ces projets. Nous avons, cette législature, nous avons trouvé ces projets déjà sur la table du gouvernement et dans la phase d'exécution. Ce qui nous a plus donné de la matière pour que nous puissions intervenir, c'était la reddition des comptes de l'exercice 2023. Quand nous avons reçu la documentation de la Cour des comptes, c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un souci par rapport à l'exécution de ces projets. Et nous avons commencé à initier des questions orales avec débat à l'encontre du ministre du Plan pour venir nous expliquer le contenu du projet. C'est là où nous avons décelé beaucoup de failles par rapport à l'exécution. Et le ministre du Plan, à l'époque, avait initié une campagne d'information pour mettre à la disposition des élus que nous sommes, des recueils qui nous donnaient l'idée générale dans l'exécution de ces projets. Et pendant ces différents échanges que nous avons eus avec le ministère du Plan, c'est à ce moment-là que nous avons constaté le premier problème qui s'est posé dans l'exécution de la première phase, dont j'ai expliqué la non-accompagnement des élus, la non-mise en valeur des bénéficiaires du projet, c'est-à-dire de la base, et les différentes difficultés que nous avons décelées par-ci, par-là. Donc, nous avons travaillé pour qu'on puisse remettre de l'ordre. Et au moment où le VPM du Plan nous donnait la matière, nous étions ici en plein exercice parlementaire, mais pendant les vacances parlementaires, nous sommes rentrés dans les bases et nous avons compris.
Il y a un intervenant qui a dit qu'il y a aussi beaucoup de députés qui rentrent même pas dans leur fief. Hein, et comment ils peuvent suivre de tels projets de près?
Dire que beaucoup de députés ne rentrent pas dans leur fief électoral, il faut avoir des éléments concrets pour expliquer. Mais à ce qu'on sache, nous voyons avec l'habitude des élus d'aujourd'hui, quand ils rentrent à la base, ils reviennent avec des images qui sont diffusées dans nos chaînes, et surtout à la RTNC, nous en avons vu beaucoup de collègues qui sont partis dans leur base et ils sont revenus avec des images. Mais nous allons demander aussi à ceux qui ne vont pas de les faire. Mais il y a aussi des contraintes. Peut-être, vous voyez que c'est un élu, mais il n'est pas peut-être en bonne santé. Il y a beaucoup de contraintes comme ça qui font que peut-être qu'à telle vacances parlementaires, l'élu ne rentrait pas. Mais dans la plupart des cas, nous rentrons dans nos territoires, nous visitons, nous parcourons tous les territoires, parce que nous, ce qui est aussi important que les auditeurs d'en savoir, que nos territoires sont vraiment vastes. Par exemple, chez moi, à Boulungou, nous avons 10 hectares et pas les 10 hectares des moindres. Ce sont des vastes étendues que vous allez parcourir sur des motos, dans des conditions difficiles. Des fois, nous dormons.
Est-ce que vous êtes aussi en contact permanent avec les autorités locales pour
informer? Mais qui nous accueille? Nous sommes des élus. Quand nous rentrons, il y a des feuilles de route qui sont émises pour que nous les déposons là où nous allons. On nous reçoit d'abord par les administrateurs du territoire et les commandants de la police, ainsi que les commandants des forces armées congolaises du territoire. Nous entrons en parfaite collaboration avec les autorités locales. Quand je rentre chez moi au territoire, je suis d'abord reçu par l'administrateur, le commandant de la police, les commandants des forces armées, et le comité de sécurité. Et il y a les procureurs. Par exemple, quand je suis allé récemment, je suis allé visiter même des hôpitaux. J'ai vu les chefs des zones de santé. J'ai vu le procureur général du territoire de Boulungou. En tout cas, nous entrons en contact. D'ailleurs, ce sont les autorités locales qui nous reçoivent, parce que ils sont obligés d'assurer notre sécurité. Donc c'est comme ça que...
Parce qu'il y a un intervenant qui a dit au-delà des députés provinciaux nationaux, il faut également une forte implication des autorités locales.
Si vous suivez nos interventions, quand nous avons eu des échanges avec le ministre du Plan, j'insiste, parce que c'est lui qui a exécuté, qui a piloté la première phase de ce projet, nous avons dit ça au ministre, comment les projets est conçu ici à Kinshasa, les acteurs qui vont exécuter le projet, on les trouve ici à Kinshasa, mais ils vont aller travailler à un terrain où ils ne connaissent rien du tout. Voilà les problèmes qui se posent. Vous gagnez un marché pour aller construire des bâtiments au Maïndombe. Comment vous irez au Maïndombe? Par quels moyens? Ce sont des questions comme ça que ceux qui avaient piloté le projet à cette première étape devraient se poser. Et c'est là où nous disons ils n'ont pas eu le temps de consulter les élus, parce qu'un élu de Maïndombe sait comment se présente son territoire, quels sont les problèmes. Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour résoudre les problèmes? Mais par contre, quand vous êtes dans les bureaux UP ici à Kinshasa, vous n'avez aucune idée. Ceux qui ont gagné du marché, ce sont des entreprises domiciliées ici à Kinshasa qui n'ont rien à voir avec nos territoires. Donc c'est là où on avait posé beaucoup de questions et vraiment on les avait beaucoup inquiétés, surtout ceux qui avaient gagné les marchés. Et cette fois-ci, nous sommes en train d'insister que ceux qui vont gagner du marché, on doit savoir s'ils sont vraiment sérieux. Parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Il y a des entreprises qui sont des mallettes. Ils n'ont pas de siège social, mais ils sont très forts dans la corruption pour gagner les marchés. Et en fin de compte, une fois qu'ils détournent l'argent du trésor public, sans exécuter les marchés. C'est comment vous pouvez vous imaginer qu'un projet qu'on a commencé à exécuter en 2023, mais aujourd'hui sera 2025, qu'on se retrouve à 40% du taux d'exécution. Donc ça pose un sérieux problème. Et nous, les députés, nous avons deux travaux à faire ici à Kinshasa. Un, c'est de légiférer, c'est de proposer des lois. Et deux, nous avons l'obligation de faire les contrôles. Si vous voyez la fin de l'année passée, avant qu'on puisse aller aux vacances parlementaires, il y a des ministres qu'on voulait faire partir du gouvernement, vous le savez, de la façon cavalière qu'on a échappé à cette vindicte des députés. Vous le savez comment ça s'est passé. Les raisons sont avancées, oh, il fallait privilégier la cohésion nationale par rapport à la guerre. Mais un ministre qui ne fait pas bien son travail, il nous fait la guerre aussi. Ça, c'est une autre façon de nous faire la guerre. C'est une autre façon de faire la guerre à la population congolaise. C'est là où nous disons que nous allons faire les contrôles parlementaires et sanctionner ceux-là qui ne servent pas l'État congolais, qui ne servent pas la population congolaise.
Il faut absolument corriger les erreurs du passé. Il faut absolument que cette deuxième phase puisse se dérouler dans les conditions normales. On va prendre les deux derniers auditeurs qui sont en ligne. Nous avons... Patti Imaïmba qui nous appelle depuis Bandundouville et puis Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi. Patti Imaïmba, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel et bonjour à notre invité. En soi, le projet des 145 territoires, c'était un projet qui avait donné quand même une lumière. Ça avait suscité quand même un espoir de vivre encore notre pays. Mais de la manière dont on voit ce projet est en train d'aller, on peut encore se soulever, ça peut encore soulever des questions. Si réellement, ça vient répondre à ce qu'on attendait. C'est un bon projet. Comme moi, mon territoire, comme je le disais autrefois, là, le territoire de Lebo, nous avons des villages qui environnent ces territoires-là. Nous avons comme les Mapangu, nous avons les Kashimba, nous avons les Kabombo. Partout là, les routes des déserts agricoles, il n'y en a plus. C'était des vieilles routes qu'on avait dans des anciens temps. Mais actuellement, quand je vous parle, même les bacs qui aidaient les gens à traverser la rivière Katembo pour atteindre Ilebo, vraiment, il n'y en a plus. Et comme maintenant, il y a l'idée qu'on puisse aussi incorporer les députés pour un peu de contrôle, nous pensons que quand même c'est une bonne chose. Si cette fois ici, nos députés qui sont les élus pouvaient travailler, pouvaient être à leur poste, comme l'invité vient de le dire là, cette fois ici, ça peut aller. Parce qu'on sait comment nos députés ils se comportent quand ils se retrouvent dans des projets comme ça. Ils sont capables de tout faire, même pour sacrifier leur peuple à cause de leurs intérêts égoïstes. On connaît, on ne peut pas se voiler la face. Cher Marcel, mon territoire, dit le beau, comme je viens tout de parler, la route qui quitte Ilebo pour aller vers Mweka, tous ces villages-là qui ravitaillaient Ilebo, le projet 145 territoires n'a pas encore vu jour là. Quand on nous dit aujourd'hui que c'est déjà quelque chose de 40%, bon, c'est parce que peut-être ils disent, dans mon territoire, jusqu'à ce matin ici, rien n'est fait.
Voilà, merci.
Tous nos députés du Lebo peuvent nous écouter.
Oui.
Allô, c'est Marcel.
Allez-y rapidement.
Tous nos députés du Lebo peuvent nous écouter pendant que nous parlons. Ils sont là. S'ils peuvent nous écouter, c'est le temps qu'ils montrent leur patriotisme. N'importe que même pour relever Ilebo qui est déjà dans les enfers, aujourd'hui même.
Voilà. J'espère qu'ils sont en train de vous suivre et que le message est passé. Merci Patti Maïma, vous êtes à Bandundouville. Et puis on prend le tout dernier, Patrick Odia, Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Marcel, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Marcel, oui, rapidement, la mise en œuvre efficace du PTL 145 territoires en RDC, notamment pour la construction des routes agricoles, nécessite, je dirais, une combinaison de planification rigoureuse, des coordinations institutionnelles, des gestions technologiques avancées et des participations actives des communautés locales. Je pense que ce n'est qu'en faisant la rigueur ou la combinaison de la rigueur, de la coordination institutionnelle, de la gestion technologique avancée et aussi de la participation active des communautés locales que l'on pourra s'attendre ou que l'on pourra contribuer à améliorer l'infrastructure rurale, aussi faciliter l'accès des produits agricoles au marché et favoriser le développement, Marcel. Pour ce faire, par exemple, Marcel, est-ce que dès la conception, y a-t-il déjà à l'identification des zones agricoles en question? Parce qu'on pourra construire également des routes là où il n'y a pas vraiment une forte production agricole. Et ce serait également nous mettre dans un état des difficultés également. Alors, quant à la question des responsabilités ou des responsabilisations des députés nationaux, honorable, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas peut-être l'occasion d'aller passer vos vacances en Europe ou aux États-Unis, mais je connais beaucoup d'entre vous qui passent les vacances parlementaires en Europe ou aux États-Unis. Et demander leur appui, je pense que c'est peut-être sur le plan productif, législatif, mais sur le plan des suivis permanents, structurel, je peux dire que nous n'avons pas compté sur vous, cher honorable, mais je propose, ou j'ai toujours proposé, par contre, que les députés, j'allais dire que les députés, si vous êtes, si vous l'êtes, que vous puissiez proposer la création des comités de coordination, des comités locaux de coordination, avec à sa tête également la société civile, les dirigeants locaux, ou les dirigeants provinciaux également.
Merci.
Et ces comités locaux pourront également permettre à ce qu'il y ait non seulement les suivis réguliers, l'entretien et la sécurité de ces biens. Au-delà de tout, on n'a rien à attendre du député parce que ce sont des touristes dans leurs chefs électoraux
et il n'y a rien à s'attendre également. Merci, Maître Patrick Odia. Depuis Lubumbashi, on va rapidement donner la parole à Élise Kavira qui vient de nous rejoindre dans ce studio pour nous faire le condensé direction par rapport à ces sujets. Élise, bonjour, vous avez la parole.
Bonjour, cher Marcel. Alors, très rapidement, nous avons Boazi Soumaïli depuis Bukavu et Maître Amani Luamba Chadrak qui parle au nom de l'Asmel Barazala Raïa, dont il est le président. Tous deux reconnaissent que le PDL 145 territoires est un projet ambitieux censé améliorer les infrastructures de base en RDC. Néanmoins, il signale quelques signaux inquiétants à plusieurs niveaux tels que la lenteur et mauvaise gestion du programme, suspicion des détournements et surfacturation, mauvais ciblage des infrastructures, absence de la société civile et des communautés locales, exportation de la main d'œuvre au détriment des travailleurs locaux. Pour finir, Maître Amani rappelle que ce programme est une opportunité pour réduire les inégalités et renforcer le développement local, mais il risque de devenir un énième projet mal géré s'il n'y a pas plus de rigueur, de contrôle et d'inclusion citoyen. Et Boazi pense que l'IGF pourrait intervenir chaque 3 mois au cours de l'exécution du projet pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes que le programme de 100 jours avait rencontré. Mumbere Mouka Moïse depuis Goma et Aristote Mboula depuis Kisangani, pour leur part, insistent sur le fait que l'implication des députés est d'une importance capitale dans ce projet, car contrôler le gouvernement fait partie des missions du député. Depuis Depuis Beni, au Nord Kivu, M. Kataka trouve que le PDL 145 territoire reste une affaire des médias de Kinshasa. Il estime que si on veut réellement parler de développement, les communautés locales doivent être associées à la planification pour savoir comment faire l'évaluation. Pourtant, il ne pense pas que l'administration locale soit informée de l'exécution de ce projet. Il affirme par contre que c'est dont les députés sont informés, ce sont les tracasseries que subit la population sur les routes des désertes agricoles où ils sont contraints de payer des taxes à chaque 1 km. Et même là encore, les députés ne font rien. Pour finir, nous lisons Aristide depuis Mahagi, qui est du même avis que M. Kataka. Mais lui, il pense que pour réussir la deuxième phase du programme PDL, 145 territoires, le gouvernement doit obligatoirement impliquer les nationaux et les provinciaux, c'est-à-dire les députés. Et il ajoute qu'il sera important d'organiser un comité de suivi et évaluation au niveau local, provincial et national. Et ce sera tout pour aujourd'hui, cher Marcel.
Merci, Élise. On va conclure avec notre invité. Vous avez en tout cas la nouveauté par rapport à toutes ces réactions. C'est comme l'a dit également Maître Patrick Odia et également l'intervenant qui a réagi avec ce que vient de nous lire Élise. On pense que si les députés, vous n'avez pas le temps, il y a ceux qui estiment que c'est important que vous impliquiez, mais si vous avez du mal à vous impliquer, pourquoi pas créer des comités?
Oui, merci, je salue tous ceux qui sont intervenus, notamment Monsieur Patrick Odia, qui appelle toujours.
Exactement, oui, un des auditeurs fidèles. Oui, oui.
Je vais dire d'abord à Monsieur Patrick qui est des.
Rapidement, oui.
D'Ilebo. Nous avons un élu palou d'Ilebo, Monsieur Justin Louépé. Il est rentré souvent en vacances parlementaires. Je les salue, Monsieur Patrick. C'est tout ce que je venais d'expliquer ici. Ce sont les inquiétudes par rapport à l'exécution de ces grands projets. Parce que c'est un projet important pour notre pays. Nous ne voulons pas que ça puisse subir les mêmes conséquences que le projet de 100 jours. Donc c'est ça, c'est là où les députés se sont intervenus massivement. D'ailleurs, moi je pense que les Congolais suivent tous les débats de séances plénières, les débats plutôt des séances plénières, vous le suivez, c'est en direct à la RTNC, et c'est toute l'étendue du pays qu'on nous suit, et vous savez l'importance que les députés congolais ont accordée à ces grands projets. Nous avons fait beaucoup de débats là-dessus, et même par rapport à l'élaboration de la loi de finances 2025, nous avons renforcé les crédits qui étaient alloués à ces grands projets pour qu'on puisse effectivement continuer à exécuter ces projets, parce que nous savons que c'est un projet important pour notre pays. Les inquiétudes que toute la population congolaise a, parce que les appels fusent de partout, on n'a pas reçu un appel d'un seul territoire ou d'une seule province, ce sont des appels qui viennent sur toute l'étendue du pays. Donc nous comprenons, et ces mêmes inquiétudes, nous les avons exprimées. Moi j'avais parlé, peut-être que les gens ne nous avaient pas suivis, j'avais dit au ministre du Plan, comment vous allez concevoir un projet que les bénéficiaires sont à 60, à 500, à 300 kilomètres, à 2000 et quelques kilomètres de Kinshasa, et ces bénéficiaires ne sont pas associés dans l'exécution du projet. Et ici, chez moi,
rapidement, on a
au territoire de Bouloumbou, oui. J'avais posé la question à l'administrateur du territoire à l'époque, en 2024, est-ce que vous pouvez me dire concrètement quels sont les ouvrages qu'on avait mis à votre disposition?
Donc on retient.
Et il m'a dit qu'il n'avait aucune information.
Voilà, on retient que vous êtes appelé à vous impliquer, vous les députés nationaux et provinciaux, pour la réussite de la deuxième phase du PDL 145 territoire. Merci Donatien Bitini Talaban. Je rappelle que vous êtes député national élu de Bouloumbou dans la province du Kwilu. Merci d'avoir été des nôtres.
Je vous en prie, Monsieur Marcel.
Fin de ce numéro. Dépenses auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.